Bonjour à toutes et à tous. Je veux vraiment souhaiter la bienvenue aux uns et aux autres, personnes que l'on voit très occasionnellement, je pense à Anne-Marie, re-bienvenue. Et aussi pour les personnes voilà, qui sont là, peut-être pour la première fois, je vois des visages que je ne connais peut-être pas. Soyez en tout cas vraiment les bienvenus parmi nous. Et comme ça a été dit, effectivement, encore ce matin, nous nous penchons sur ces deux versets, et plus précisément, en fait, sur le premier verset. Je ne vais pas déborder le premier verset, tant il y a effectivement de choses à dire. Et je veux aussi préciser, au cas où ça pourrait arriver, il y a quelques jours, j'avais la voix qui déraillait un petit peu, ou en tout cas, j'avais la voix un peu enrouée. J'espère que ça ira jusqu'au bout. En tout cas, je compte sur la grâce de Dieu pour que ça aille jusqu'au bout. Mais si jamais, ben, on ne sait pas ce qui se passera, mais vous direz Amen, et moi aussi. Alors, il me semble dans mes souvenirs que j'étais peut-être au groupe de jeunes de l'église, ou même un peu avant, peut-être, hein, je ne me souviens plus très bien, je dois dire que ça fait longtemps. Je me souviens de l'impression que j'avais quand on nous parlait du ministère à plein temps, et plus particulièrement, en fait, le ministère pastoral. Le fait de consacrer tout son temps au service de Dieu. Et je ne sais plus si c'était la manière de le présenter, d'en parler, ou c'était juste ma réaction à moi, mais moi qui n'envisageais pas du tout d'être dans cette catégorie, je trouvais admirable les personnes qui s'engageaient dans cette voie, de consacrer toute leur vie au service de Dieu. Et naïvement, je pensais qu'il y avait dans l'Église deux catégories, une poignée de personnes entièrement consacrées à Dieu, à plein temps pour Dieu et tous les autres. C'est vrai que le ministère pastoral est une vocation spécifique, mais le premier verset de notre texte que nous avons lu nous invite à considérer cet appel à une consécration entière pour Dieu comme un appel pour tous les chrétiens. Donc pas deux catégories, mais une seule et même catégorie, tout le peuple de Dieu, entièrement consacré à Dieu. Vous et moi, si nous croyons en Christ, nous partageons cette même vocation de servir Dieu de tout notre être, corps et âme. Nous partageons cette même vocation à vivre pour lui tous les jours de notre vie. Et pourquoi cela concerne-t-il tous les chrétiens et pas seulement une poignée d'entre eux? Eh bien, la réponse est dans le premier verset, à cause des compassions de Dieu. À cause de la grâce de Dieu qui s'est manifestée en Jésus. Cette grâce qui a touché tous les croyants, à cause de l'amour de Dieu qui est devenu évident sur la croix, quand Jésus est mort à la place des pécheurs. Dieu a manifesté de manière concrète sa compassion, et cela concerne tous ceux et celles qui ont mis leur foi en son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Donc oui, cette consécration, cet appel à une consécration entière de toute une vie à Dieu est un appel pour tous les croyants. Et pas simplement pour les pasteurs. C'est pourquoi ce matin, dans cette série de trois messages que nous avons déjà entamés dimanche dernier, je m'arrête encore sur ce premier verset. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Et il me faut d'abord revenir sur l'expression que nous avons abordée la fois dernière, par les compassions de Dieu. Oui, je reviens encore une fois là-dessus. Parce que c'est notre base. Si nous ne commençons pas par là, tout le reste est faussé. Bien sûr, je ne vais pas refaire le message de dimanche dernier. Mais comme je l'ai dit, la grâce de Dieu est un point de départ incontournable avant d'aller plus loin dans la vie chrétienne. La grâce de Dieu est un point de départ, le point de départ incontournable avant d'aller plus loin dans la vie chrétienne. Tout commence par le fait que Dieu a eu compassion de nous, de notre misérable état de pécheur, d'hommes et de femmes qui ne pouvaient pas se sauver par eux-mêmes. Tout commence par là, c'est le point de départ. Et on ne peut pas changer ce point de départ. Sinon, on est en train de vivre autre chose, une autre vie qui n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Notre point de départ, c'est la grâce de Dieu. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a planifié dans son plan parfait la croix. Dieu le Fils qui meurt pour des hommes. Et si nous enlevons cette expression dans notre verset, et donc tout ce que Dieu a accompli pour notre salut, eh bien ce que Paul est en train de demander à ses destinataires n'est que du pur fanatisme. Donnez-vous à Dieu. Mais si nous enlevons par les compassions de Dieu, c'est que du fanatisme. Alors, selon quelle motivation devons-nous nous donner entièrement à lui ? Eh bien, parce que c'est ce Dieu de compassion qui nous appelle à le faire, qui est lent à la colère, qui est riche en bonté. C'est lui qui peut susciter en nous une telle consécration. C'est parce que vous le voyez ainsi que vous avez envie de vous consacrer à lui. Et pourquoi vous le voyez ainsi ? Parce qu'il a prouvé qu'il était ainsi. Parce que lorsque vous regardez à la croix de Jésus-Christ, vous savez que c'est un Dieu compatissant. Nous ne sommes pas au service d'un Dieu capricieux, dont il faudrait encore gagner les faveurs. Le Dieu que Jésus a révélé a déjà prouvé qu'il nous aimait et que rien ne pourrait nous séparer de son amour si nous sommes en Christ. Rien, absolument rien. La semaine dernière, j'avais insisté là-dessus. Ni le présent, ni l'avenir. Et je veux encore reciter Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Même pas nous-mêmes. Nous pourrions être un obstacle à cela. Dieu nous a déjà prouvé qu'il nous aimait. Le Fils de Dieu est devenu homme. Il a vécu parfaitement en accord avec Dieu le Père. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Et c'est ainsi que Dieu est intervenu dans l'histoire. C'est un fait historique. Ça s'est passé et rien, absolument rien, ne peut effacer, annuler cette intervention historique de Dieu. C'est pourquoi la croix est toujours notre assurance, est toujours notre espérance. Parce qu'on ne peut pas effacer ce qui s'est passé. Dieu l'a marqué dans l'histoire. C'est pour cela que les chrétiens ont une aussi grande assurance en leur sauveur. Leur salut leur est accordé par grâce en vertu de l'œuvre qu'on ne peut pas effacer, qui s'est produit en vertu de l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est cela qui donne de la solidité aux propos de Paul. Tout ce qu'il a évoqué dans les 11 premiers chapitres de sa lettre, c'est cette base, cette fondation. C'est le pasteur John Piper qui utilise cette image, la fondation d'une maison. Et il porte justement son attention sur un petit mot que je n'avais pas évoqué la semaine dernière, mais qui est dans notre verset. Je vous encourage donc. Le donc renvoie à ce qui précède. Après avoir parlé pendant 11 chapitres, je vous encourage donc, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Donc, qui renvoie à tout ce que Paul a dit jusque-là. La vie chrétienne, et je reprends cette idée de John Piper, la vie chrétienne vient après un donc. La vie chrétienne a une fondation. Elle se construit sur une fondation. Et cette fondation, ce sont les compassions de Dieu. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu qui surabonde là où le péché a abondé. C'est l'espérance de la gloire à venir pour tous ceux et celles que Dieu a prédestinés, appelés et déclarés justes. C'est cette fondation, elle est solide. Si votre fondation n'est pas solide, votre maison s'écroule. On n'a pas besoin d'être expert en architecture pour le comprendre. Cette fondation, elle est solide et elle nous est récapitulée dans Romains chapitre 1 à 11. La vie chrétienne se construit sur le message de l'Évangile. Elle se construit sur Romains chapitre 1 à 11. Moi, je vous parlais des compassions de Dieu comme point de départ. John Piper en parle comme une fondation. Dieu n'a pas épargné son Fils pour vous, donc je vous encourage à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. il apparaît que la vie chrétienne est en fait une réponse à la grâce de Dieu. Est-ce que nous vivons notre vie de cette manière-là, comme en fait une réponse à Dieu ? Constamment, chaque jour, c'est une réponse à Dieu, à ce qu'il a déjà fait pour nous. Notre vie chrétienne vient après ce « donc ». Il a fait quelque chose, donc je vis ainsi. Dieu a fait tout cela pour moi, donc je suis prêt à le suivre, comme nous l'avons chanté. Donc je suis prêt à lui obéir. Donc je suis prêt à me détourner du péché. Donc je suis prêt à lui offrir mon corps comme un sacrifice vivant, saint et qui lui est agréable. Mais que se passe-t-il si ma vie n'a pas comme fondation Romains chapitre 1 à 11 ? Je vous donne un exemple. Que se passerait-il si ma vie n'avait pas une telle fondation ? Eh bien, je serais constamment en train de me demander si j'en fais assez. Est-ce que ma vie est suffisante dans mes œuvres, dans tout ce que je fais ? Est-ce que j'en fais assez pour Dieu ? Je serais constamment en train de me demander cela. À l'église, on m'incite à lire régulièrement la Bible. Mais régulièrement, c'est tous les jours ? C'est une fois par semaine ? Et si c'est tous les jours, durant combien de temps ? Et si je lis une heure de plus que les autres, est-ce que Dieu m'aimera plus que les autres ? Ou inversement, si je lis une heure de moins que les autres, est-ce que Dieu m'aimera moins que les autres ? Et si je prie une heure de plus, est-ce que Dieu me bénira davantage ? Je serai toujours en train de me demander cette question-là. Est-ce que j'en fais assez ? Vous voyez le raisonnement ? C'est celui d'un chrétien qui oublie que Dieu l'a aimé le premier, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Souvenez-vous de la croix, cet événement qu'on ne peut pas effacer. Dieu l'a montré. Il m'a aimé le premier, avant que je fasse quoi que ce soit. C'est le raisonnement d'un chrétien qui a oublié ce qu'est la grâce de Dieu, une faveur qu'il ne mérite pas. Combien même Dieu me bénit beaucoup, mais je ne le mérite pas. Ce n'est pas parce que j'ai fait de bonnes actions. La question n'est donc pas de savoir si nous sommes à la hauteur ou si nous en faisons assez, si nous avons bien respecté les commandements de Dieu. Parce qu'en réalité, nous ne faisons rien parfaitement. Parce qu'en réalité, nous n'obéissons pas parfaitement à Dieu. Ce sera toujours, toujours, ici-bas en tout cas, insuffisant. Quoi que vous fassiez, ce sera toujours insuffisant aux yeux de Dieu. Donc la bonne question n'est pas de se dire « est-ce que j'en fais assez ?» parce que vous n'en ferez jamais assez. Moi non plus. Jamais. Pour reprendre l'image de la fondation, notre vie ne repose plus justement sur cette fondation de nos œuvres, de nos accomplissements qui demeurent toujours imparfaits. Notre vie, désormais, rachetée par Christ, repose et doit reposer sur la seule fondation solide, les compassions de Dieu, la grâce de Dieu qui nous procure la paix avec Dieu. Grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. La fondation, c'est de savoir que j'ai une relation réconciliée avec Dieu, restaurée, et que je n'ai pas besoin de gagner les faveurs de Dieu. Il me l'a déjà accordé par grâce. Tout cela est solide. Tout cela est indestructible. Parce que c'est Jésus lui-même qui garantit que c'est solide. Nous pouvons construire dessus avec confiance. Nous pouvons mener notre vie pour Dieu avec confiance sur cette fondation-là. Et du coup, fini les questions, suis-je à la hauteur ? Est-ce que j'en fais assez ? Tu es déjà réconcilié avec Dieu, si tu as placé ta foi en Christ. Tu n'as pas besoin de chercher à gagner cela. Ce qui nous amène à nous demander, mais comment ? Comment construire dessus ? Comment mener ma vie sur cette fondation-là ? Offrir offrir mon corps comme un sacrifice. Voilà ce qui nous est demandé. Je relis encore une fois le verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, la fondation, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Nous avons chanté ces chants, encore il n'y a pas si longtemps, là, ce matin, où nous disons à Dieu qu'il peut tout prendre, que nous nous donnons à lui, que nous nous engageons à le suivre. Et à quel point ces paroles nous engagent quand nous les chantons. Prends tout. Toute ma vie, mon cœur, mon corps, mon âme. On ne demande pas cela à n'importe qui. N'allez pas prendre le premier inconnu dans la rue et dire « Prends mon âme !» ou « Prends mon corps !» Non, vous le dites à Dieu. Ça nous engage tellement de le dire, en fait. Et parfois, nous avons même peur de chanter ces paroles, parce que ce n'est pas ce que nous vivons en ce moment. Nous nous sentons hypocrites de chanter une chose et de vivre tout autre chose. Mais pourtant, si nous considérons une fois de plus la croix de Jésus-Christ, son sacrifice pour nous sauver, nous savons que la seule façon de vivre notre vie désormais, c'est ce que Paul exhorte à faire ici, offrir notre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Alors qu'est-ce que cela veut dire? C'est John Piper qui le relève, soyons rassurés, Dieu nous demande des sacrifices vivants. Dans l'Ancien Testament, quand on parlait de sacrifice, on parlait d'animaux qu'on égorgeait sur l'autel, donc d'animaux morts. Ce n'est pas ce que Dieu demande ici en Romains 12. Dans le Nouveau Testament, le sacrifice de Jésus renvoie aussi à sa mort. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, si le sacrifice consistait en la mort de la victime, c'était en rapport avec les péchés. La victime paye à la place du pécheur ce qu'il aurait dû, lui, le pécheur, subir pour sa faute. Puisque Christ a offert une fois pour toutes un tel sacrifice par le don de sa vie, nous n'avons pas à offrir de tels sacrifices. Donc Romains 12 ne parle pas de cela, d'offrir des sacrifices morts, mais des sacrifices vivants. Dieu nous demande de nous offrir à lui, parce que nous sommes vivants. Il veut de nous vivants. Que nous puissions lui offrir notre corps. Alors pourquoi notre corps? Pourquoi parle-t-il du corps ici? Pourquoi ne dit-il pas le cœur? Lui offrir notre cœur? Oui, mais pourquoi notre corps? Est-ce que prêter allégeance à Dieu dans mon cœur ne suffit pas? Dire voilà, je suis chrétien et je l'ai confessé et ça s'est passé dans mon cœur. Pourquoi mon corps? Eh bien, parler du corps, c'est parler de ce que Dieu nous a donné et qui nous permet d'être au contact de ce monde. Si vous me voyez, c'est que j'ai un corps. Si je n'avais pas de corps, vous ne me verrez pas. C'est avec mon corps que je suis en relation avec les autres. C'est avec mon corps que je fais le bien, comme malheureusement je fais le mal. Donc Dieu me demande de donner cet instrument-là ou cette habitation qu'il m'a donnée et de le lui offrir pour que mon corps soit à son service. Et ce n'est pas la première fois dans sa lettre que Paul en parle. Il en parle déjà au chapitre 6. Et je voudrais relire Romains chapitre 6, versets 12 à 13. « Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, sacrifice vivant, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. » Déjà ici, Paul exhortait les chrétiens de Rome à se livrer à Dieu, à mettre leur corps au service de la justice, de ce que Dieu définit comme juste. Dieu appelle celles et ceux qu'il a sauvés à une consécration de toute leur personne. Et donc cela comprend aussi mon corps. Ce n'est pas juste une affaire d'être intérieur ou de cœur. C'est aussi mon corps qui est impliqué dans tout cela. Notre corps est désormais au service de Dieu, au service de sa justice. Notre corps n'est plus à nous, mais il lui appartient. C'est pourquoi nous chantons « Prends mon corps, oui, prends-le, il est à toi ». Par l'exhortation de Paul, Dieu nous interpelle sur notre responsabilité ici. Notre responsabilité à faire bon usage de notre corps. Et le meilleur usage que nous puissions en faire, c'est de pouvoir accomplir ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Paul nous appelle à cette responsabilité. S'il demande, s'il dit « Je vous encourage à offrir », mais la responsabilité est du côté des chrétiens de Rome, c'est à eux d'offrir leur corps. Et de même, pour nous, ce matin réunis, c'est à nous aussi, par les compassions de Dieu, nous sommes encouragés à lui offrir notre corps comme un sacrifice vivant, à donner toute notre personne, à être prêt à le servir. Et à le servir au sens large, hein. Je ne parle pas simplement du fait de servir à l'Église ou de servir dans des missions chrétiennes, mais finalement de vivre pour lui, de vivre pour sa gloire, de l'honorer dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans notre comportement, dans notre attitude avec les autres, où que nous soyons, 24 heures sur 24. Enfin, presque, parce que parfois on dort et on n'a plus conscience de ce qu'on fait, mais vous m'avez compris. Dieu demande en effet un sacrifice saint et qui lui est agréable. Dieu nous a libérés de l'esclavage du péché, de l'emprise qu'avait le péché sur notre vie, pour que nous vivions différemment. Non plus dans le péché, mais dans la sainteté. Et je lis Romains chapitre 6, verset 22. « Mais maintenant que vous avez été libérés du péché, dans le sens, le péché n'est plus votre maître. Vous avez été libéré du péché et que vous êtes devenu esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Combien il est préférable d'être esclave de Dieu qu'esclave du péché. Combien il est préférable d'utiliser son corps au service de Dieu qu'au service du péché. Et dans sa grâce, c'est ce que Dieu nous permet de faire et de vivre. Dans sa grâce, il nous permet de vivre autrement, non plus esclaves du péché, mais esclaves de Dieu. Et c'est tellement mieux. Si nous avons placé notre confiance en Christ, nous avons donc reçu de lui une vie nouvelle, animée par l'Esprit. Nous n'avons pas gagné cette vie nouvelle. Nous n'avons pas fait quelque chose pour obtenir cette vie nouvelle. Il nous la donne dans sa grâce, alors que nous ne le méritions pas. C'est cette vie dont je suis en train de parler, c'est cette vie qui suit le donc de ce que Dieu a accompli pour notre salut. Nous dirions donc que c'est par amour pour Dieu, par reconnaissance que nous vivons pour lui. Comme la seule réponse adéquate à ses compassions. Nous ne pouvons pas offrir à Dieu moins que notre personne. Ce serait un sacrifice semblable à une part de gâteau déjà entamée dans le frigo. Désolé pour l'image. Offrir moins que notre personne ressemblerait un peu à cette part de gâteau qu'on aurait tellement envie de manger mais qui est déjà entamée et qui est dans votre frigo. Dieu veut toute notre personne parce que c'est toute notre personne qu'il a rachetée. Corps et âme. Redisons-le ici, nous offrir à Dieu n'a de la valeur que parce que Jésus a d'abord offert sa vie. C'est pourquoi les compassions de Dieu arrivent en premier. Ce que Dieu a accompli par Jésus-Christ arrive en premier. Sinon, nous pourrions croire, en fait, me consacrer à Dieu, ça a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Oui, mais pas sans l'œuvre de Christ. Sans que Christ soit d'abord le sacrifice parfait offert à Dieu. Pour plaire à Dieu, nous serons toujours dépendants de ce que Jésus a d'abord accompli à notre place. Notre vie n'est qu'une réponse. Ce n'est pas une initiative. Comme si Dieu n'avait rien fait et moi je prends l'initiative d'aller vers lui. Non, notre vie n'est qu'une réponse à ce que lui a fait pour nous. Notre vie ne vient qu'après coup. Et c'est grâce à l'œuvre de Christ, sa mort et sa résurrection, que nous sommes en fait présentables devant Dieu. C'est grâce à ce que Jésus a fait pour nous que nous pouvons effectivement être présentables devant Dieu et que nous pouvons lui offrir, nous offrir à lui. Parce qu'au préalable, Christ nous a déjà purifiés. L'apôtre Pierre le dit également dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 5. « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Si vous enlevez cette partie-là, on est dans le mensonge. Et Dieu n'accepte rien du tout de notre part. Mais nous venons toujours à Dieu par Jésus-Christ. C'est son sacrifice qui compte. Le nôtre ne vient qu'après coup et n'a pas du tout la même valeur. Ce que nous offrons volontairement à Dieu, notre corps, notre personne, notre vie, Dieu ne peut les accepter que par Jésus-Christ. Que si nous sommes unis à Jésus-Christ. Et cela nous rassure, parce que effectivement, nous avons cette fondation sûre et solide. Christ est bien mort et ressuscité pour nous. Et de ce fait-là, nous pouvons effectivement venir à Dieu, lui offrir notre corps en sacrifice vivant, et nous savons que cela sera toujours accepté par Dieu. Et donc, grâce à Christ, appliquer Romains chapitre 12, verset 1, est à notre portée. Nous pouvons le faire. Dieu l'acceptera par Christ. Je voudrais terminer par la fin du verset 1. Le langage que Paul emploie dans ce verset est du registre cultuel. Vous avez les mots sacrifice et culte qui vont ensemble, en lien avec Dieu. Offrir son corps en sacrifice vivant, c'est vivre comme Dieu le demande, c'est faire sa volonté dans chaque domaine de notre vie. Et c'est ça, précisément, le culte que Dieu demande et qui lui plaît. Paul dit que c'est le culte raisonnable. D'autres traduisent authentique ou encore spirituel. Et nous devons sans doute comprendre que c'est le culte qui convient à celui à qui nous le rendons. Il n'est pas aberrant d'offrir toute notre personne à Dieu parce que c'est Dieu qui le demande. Dieu le Créateur, Dieu qui a eu compassion de nous et qui nous le demande. Donc ce n'est pas aberrant ce qui nous est demandé ici. C'est un culte raisonnable, au contraire. Le culte qui ne conviendrait pas, qui n'honorerait pas Dieu, c'est cette part de gâteau entamée. Donner un peu de ma personne et vivre essentiellement pour soi, pour moi. Là, c'est le culte qui n'est pas du tout raisonnable. Certains diraient que ce n'est pas logique. Que ce n'est pas conséquent par rapport à tout ce que Dieu a fait. Et le point que j'aimerais souligner, c'est que ce verset nous indique que la notion de culte est plus large que ce que nous entendons par ce mot dans nos milieux évangéliques. Nous comprenons, dans ce verset 1, que cela ne se limite pas au culte du dimanche matin. Paul ne fait pas référence à cela. Par leur vie, par leur obéissance, les chrétiens rendent aussi un culte à Dieu du lundi au samedi. Tout simplement parce que nous n'arrêtons pas d'être chrétiens une fois le dimanche passé. Ce verset nous encourage d'emblée à penser notre vie entière, notre quotidien comme un culte rendu à Dieu. Il peut aussi m'arriver, parfois, peut-être, on va dire un peu par une sorte de déformation professionnelle, de compartimenter le dimanche, la journée du dimanche et le reste de la semaine. Et je suis sûr que ça nous arrive à chacun d'entre nous, en réalité. Comme si le dimanche n'avait rien à voir avec le reste de la semaine passée ou de la semaine à venir. Comme si le dimanche était le jour spécial, mais les autres jours ne sont pas spéciaux. Comme si le dimanche était le jour du culte, mais qu'en est-il du lundi au samedi ? D'après ce verset 1, je ne suis pas en train de raisonner sur autre chose. À partir de ce verset 1, comment pourrions-nous compartimenter le dimanche et les autres jours de la semaine ? Quand nous parlons de culte. Ça nous pose question. Ça ne veut pas dire qu'on va cesser d'appeler notre temps ensemble le dimanche matin culte, mais ça ne peut pas se limiter à cela. Si le seul jour de la semaine où je rends honneur à Dieu tout spécialement, c'est le dimanche, il me semble qu'on loupe quelque chose par rapport à ce que Paul est en train de dire ici. Le professeur de théologie Émile Nicole relève une chose intéressante à propos du culte, et cette fois-ci dans le sens du rassemblement du dimanche. Voici ce qu'il dit. Plus le culte est une réussite esthétique, plus il offre de satisfaction aux participants, et plus il court le risque d'être une activité qui tourne sur elle-même. On vit que pour le culte du dimanche. On croit qu'on a ainsi honoré Dieu parce qu'on s'est fait plaisir, alors que Dieu, lui, nous attend le lundi matin au travail. Ou le dimanche soir avec notre famille, pour voir si nous lui rendons vraiment un culte. Remarque pertinente, je trouve. Dieu nous attend au tournant lorsque nous allons rentrer d'ici. Et demain, quand notre semaine va commencer, est-ce que nous continuons de lui rendre un culte ? C'est-à-dire à offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Et ne faisons pas dire à Émile Nicole ce qu'il n'a pas dit. Oui, Dieu prend plaisir à ce que ses enfants se rassemblent le dimanche pour le louer, pour le prier, pour être à l'écoute attentive de sa parole. Sinon, on ne serait pas ici ce matin. Sinon, je ne serais pas en train de prêcher ce matin. Oui, Dieu prend plaisir à cela, évidemment. Mais Dieu prend aussi plaisir quand ses enfants continuent de vivre pour sa gloire tout au long de la semaine. Le culte raisonnable ne peut pas effectivement se limiter au dimanche matin. Le culte raisonnable, agréable à Dieu, que Dieu commande, est de vivre chaque jour pour lui, pour sa gloire. Et quand vous y pensez, c'est exactement ainsi que Jésus a vécu sa vie sur terre. Jésus se levait parfois très tôt le matin pour prier. Il enseignait, il guérissait les malades. Et l'on rendait gloire à Dieu. Quand on lit l'évangile, c'est frappant de voir que les gens rendaient gloire à Dieu pour ce que Jésus faisait. Bien sûr, Jésus est allé plus loin que nous tous. Il est allé jusqu'à offrir sa vie en sacrifice, littéralement. Jusqu'à mourir pour des pécheurs. Et toute sa vie a été alignée sur la volonté de Dieu. Et lui seul... Dans l'histoire de l'humanité, lui seul a parfaitement fait ce que Dieu attendait d'un homme. Et bien sûr, Jésus n'était pas qu'un homme. Il était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Il est effectivement le modèle pour nous à imiter. Et d'ailleurs, c'est à lui que Dieu veut que nous ressemblions. Et par cette transformation que Dieu a déjà entamée en nous par son esprit, nous sommes en train de devenir comme Jésus. J'aime affirmer cela. Nous sommes en train de devenir comme Jésus. On ne sera jamais divinisé, ce n'est pas ça que ça veut dire, mais on sera semblable à lui. Dans son caractère, dans son obéissance, dans sa dépendance à Dieu, dans le fait qu'il ait toujours fait la volonté de Dieu. Dieu agit en nous par son esprit. Il est en train de nous transformer pour que nous puissions effectivement devenir semblables à Christ. Afin que du matin au soir, nous agissions par amour pour plaire à Dieu. À ce Dieu qui a eu compassion de nous. À ce Dieu qui nous a donné une nouvelle vie. C'est le culte raisonnable que nous pouvons lui rendre. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et bien sûr le dimanche aussi. Si je devais récapituler tout ce que je viens de dire, quelle est la volonté de Dieu d'après Romains chapitre 12 verset 1 ? Dieu veut que son peuple, en réponse à sa grâce, se donne à lui. Voilà le résumé. Dieu veut que son peuple, le peuple de Dieu, en réponse à sa grâce, se donne à lui. Alors je vous laisse avec trois questions. La première, est-ce que ma vie repose sur cette surfondation, cette solide fondation de la grâce de Dieu manifestée par l'œuvre de Jésus-Christ ? Est-ce que c'est ça ma fondation ? La deuxième question, c'est est-ce que Dieu m'appelle ce matin, de nouveau, à me consacrer entièrement à lui, à me donner entièrement à lui, par amour pour lui, en obéissant à sa parole dans chaque aspect de ma vie. Est-ce que Dieu m'appelle ce matin à cela ? Et puis la troisième question, c'est si rendre un culte à Dieu ne se limite pas au dimanche, qu'est-ce que cela implique pour la semaine qui vient ? Si rendre un culte ne se limite pas juste au dimanche, qu'est-ce que cela implique pour la semaine qui vient ? Je suis arrivé au bout. Amen. Prions ensemble. Oui, par ta grâce, j'ai pu aller jusqu'au bout de ce que tu m'as permis de dire. Mais surtout, Seigneur, je prie que ta parole continue de résonner dans le cœur de mes frères et sœurs. Que nous puissions effectivement être tellement saisis par ta grâce que nous n'avons d'autre réponse que de vivre entièrement pour toi dans chaque aspect de notre vie. Donne-nous, Seigneur, effectivement, du matin jusqu'au soir, d'être toujours conscient que c'est pour toi que nous vivons. Que nous puissions travailler, nous occuper de notre famille, être dans nos loisirs, dans tout ce que nous faisons. Quoi que nous fassions, Seigneur, tu nous appelles à pouvoir vivre pour ta gloire. Ce n'est pas un enseignement nouveau, mais c'est tellement important, Seigneur, que nous puissions saisir que c'est ta grâce qui nous motive à cela. Et que c'est en regardant de nouveau à tes compassions que nous nous rendons compte que ce serait tellement ingrat de vivre autrement. Oui, Seigneur, donne-nous de fixer nos regards sur Jésus-Christ, notre sûre fondation. Celui sur lequel nous pouvons entièrement nous reposer pour notre espérance, pour notre avenir. Oui, nous n'avons rien à craindre parce que Christ a déjà tout accompli. Et que cela nous donne de l'assurance pour la semaine qui vient. De l'assurance de pouvoir venir devant toi, de te rendre ce culte jour après jour, en offrant notre corps comme un sacrifice vivant, sain et qui t'est agréable. Avec cette assurance que tu vas l'accepter, Seigneur, l'accepter par Christ, parce que c'est lui qui s'est d'abord donné pour moi, pour nous. Merci, Seigneur, parce que ta grâce est immense, tellement immense que tu nous donnes cette liberté de pouvoir vivre cette vie nouvelle en n'étant plus en n'étant plus prisonnier du péché, mais en étant entièrement libre pour pouvoir vivre selon ta justice, dans la sainteté, pour t'honorer devant ce monde. Tu nous as donné ce corps, Seigneur, et je te prie, nous te prions, Seigneur, que tu utilises nos corps pour ta gloire, pour l'accomplissement de ta justice, pour l'accomplissement des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Que tout cela se fasse, Seigneur, avec la puissance de ton esprit. Nous te le demandons, au nom de Jésus-Christ. Amen.